vas-tu, mon ami?
Très, très bien. Content d'être avec vous ce soir.
Tout le plaisir est pour nous, tu sais bien. Chers auditeurs et auditrices, les gens qui sont nombreux sur la route en ce moment, pour le retour, ils essaient d'avoir l'actualité. Prends des tours!
Ouais!
Éric, tu veux nous parler du ministre Roberge qui veut faire plus de place à l'athéisme, mon ami?
Oui, parce que pour lui, qui a déjà enseigné ce cours-là, le cours d'éthique et culture religieuse, eh bien, il trouve que la place qu'on donne à l'athéisme n'est pas suffisante dans le programme. Alors que le Parti québécois, lui, pour sa part, voudrait qu'on enlève de la plage horaire ce cours-là. Et lui, le ministre, dit non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remanier. Alors pourtant, la CAQ, en 2012, avait dit on va enlever de la grille horaire ce cours-là. Mais Jean-François Roberge, puisqu'il est ministre de l'Éducation, c'est lui, en théorie, bien sûr, qui a le dernier mot. Et ce qui arrive, c'est que c'est sûr que la foi athéiste est presque pas présente dans le programme parce qu'on parle des cinq grandes religions. On est supposé, théoriquement, de donner une prédominance au christianisme à cause de son caractère patrimonial. Mais il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils se disent, bon, maintenant, puisque les jeunes sont bombardés d'informations, bombardés par, justement, des slogans, par des raisonnements qui les amènent à quitter la foi, il y a des gens de foi qui s'inquiètent, d'une part. D'autre part, moi, je dis que l'enseignement de l'athéisme à l'école, ça a sa place si ce n'est pas enseigné comme un dogme. Parce qu'on sait très bien que les extrémistes, ceux, il y a plein de gens qui se disent athées, mais il y en a qui sont des militants en faveur de l'athéisme. Et ces gens-là même pratiquent une religion. Je ne sais pas si tu savais, Jocelyn, qu'en Alberta, il y a une église qui se dit une église athéiste.
Ah!
Oui.
Non, je suis au courant.
Oui. Il y a eu un reportage là-dessus en 2013. Même en Angleterre, aussi à North London, il y a également une église qui se dit athéisme. Ils se réunissent, ils chantent, et puis ils ont des enseignements, des homélies à caractère athée. Et donc, pour eux, c'est leur religion. Donc, une religion où est-ce que Dieu n'existe pas, où est-ce que leur vie est conforme à leur théologie ou leur athéologie. Donc, à ce moment-là, si, par exemple, l'athéisme est enseigné comme une croyance parmi d'autres, aussi objectivement que les autres religions, je me dis, ça a sa place. Si c'est enseigné comme étant la norme, là, à ce moment-là, ça va créer des malaises chez les autres groupes religieux, chez les Juifs, les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, etc.
Pas ça un peu contradictoire. Une religion qui se veut contre les religions. C'est spécial, là.
Oui, mais c'est parce que les gens qui ne croient pas en Dieu, par exemple, vont ajuster leur mode de vie, vont faire leur choix en fonction de leur croyance, et leur croyance, c'est que Dieu n'existe pas. Donc, puisque Dieu n'existe pas, je n'ai pas nécessairement à me soumettre à certains dogmes, à certaines valeurs, à certains rituels. Donc, les gens qui sont cohérents avec leur croyance vont avoir un mode de vie qui est correspondant. Donc, de la même manière qu'un chrétien, normalement, va agir en fonction de sa foi, et s'il dévie, il va demander pardon, et parce que ça fait partie des dogmes et des responsabilités de ce croyant-là, ben, celui qui croit à la non-existence de Dieu, ben, normalement, agit comme si Dieu n'existait pas.
Seigneur, je viens de me mentionner, Seigneur. C'est un autre lancé.
Oui. Oui.
C'est le Parti libéral du Québec qui le verra sa position sur la réforme du mode de scrutin.
Ben oui, c'est ça, parce que, bon, ça arrive à l'occasion, pas toujours, mais ça arrive à l'occasion que, à cause du décalage, là, puis je ne veux pas trop rentrer dans la complexité, là, parce qu'après une journée de travail, à un moment donné, la concentration est plus sur les nids de poules que sur les chiffres, les statistiques, là. Mais grosso modo, ça arrive parce que, puisqu'un gouvernement est formé en fonction du nombre de députés élus, quand on fait le calcul mathématique de tous les votes pour chaque parti, ça peut arriver à certains moments que le chef de l'opposition ou le parti qui forme l'opposition officielle a eu plus de votes que le parti au pouvoir parce que le parti qui est au pouvoir, il est en fonction du nombre de députés élus. Alors, pour corriger ça, ce qu'on dit depuis plusieurs années, c'est une proportionnelle mixte. Donc, au lieu d'avoir 125 comtés, on aurait 75 comtés, comme au fédéral, mais les 50 autres députés, ils ne seraient pas élus par un vote de la population, ils seraient choisis par le chef du parti en fonction du pourcentage qu'il a recueilli. Donc, si par exemple, la CAQ avait eu 40 %, bien là, sur les 40 % des 50, donc ça veut dire 20, il est choisi dans sa liste 20 candidats qui rajoutent. Et à ce moment-là, chaque parti a une représentation plus juste de l'électorat. Et ce que ça fait, c'est que la CAQ, avant les dernières élections, avant le 1er octobre 2018, est en faveur, Québec solidaire est en faveur, le Parti québécois est en faveur, le Parti vert est en faveur, le Parti conservateur du Québec est en faveur, mais les libéraux, eux, résistaient et disaient non. Nous, on va rester comme on est là. C'est un vote, un électeur, puis ça s'arrête là. Mais là, puisqu'ils sont dans l'opposition, ils se disent, ouais, est-ce qu'on peut se permettre d'être à l'écart comme ça? Donc, ils sont en train d'évaluer si le calcul politique en vaut la chandelle. Donc, on va en savoir plus prochainement.
Ils analysent leur position.
Oui, c'est ça. Le coût politique de tout ça, est-ce que c'est payant ou pas? Alors, on va en savoir un peu plus long dans les prochaines semaines.
Maintenant, si on continue de nous parler aussi de la pauvreté qui affecterait moins d'enfants, selon Statistique Canada, ça, c'est une très belle nouvelle, là.
Oui, 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 ça, c'est très positif et j'aime ça quand on a des nouvelles positives. Et oui, mais depuis 2012, on voit qu'il y a une nette amélioration. Vraiment, 2012, là, ça a commencé à marquer un changement, donc une diminution de la pauvreté dans les familles qui ont des enfants. Et ça, c'est à cause des mesures fiscales qui ont été apportées au début par le gouvernement conservateur, puis qui ont été bonifiées par la suite par les libéraux avec Justin Trudeau. Et ça a eu une cause directe. Le fait que lorsqu'on parle des allocations familiales ou lorsqu'il y avait du financement pour ceux qui envoyaient leurs enfants dans les garderies. Donc, ça l'a énormément aidé. Cependant, ce que l'Institut économique de Montréal va dire, c'est qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon où est-ce que l'État donne de l'argent aux parents pour les aider à sortir la tête de l'eau. Ou, l'autre façon, c'est on stimule l'économie pour créer plus d'emplois pour que les gens sortent de la pauvreté par des meilleurs emplois, puis des emplois qui vont ramener plus d'argent. Donc, peu importe le moyen, pour moi, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir moins d'enfants qui sortent de la pauvreté. Évidemment, si on stimule davantage l'économie, eh bien, ça va amener une plus grande prospérité. Et donc ça amène un fardeau moins lourd pour le contribuable. Ça a son avantage. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas ce moyen-là que le gouvernement a choisi. Mais le résultat est qu'il y a moins d'enfants qui vivent dans la pauvreté. Ça, c'est louable.
Oui, c'est très louable, mais c'est important également. Mm-hmm. Écoute, Éric, avant de nous quitter, mon ami, j'aimerais que tu nous parles de ta prochaine chronique qui va se porter vers la prochaine. Juvénile, mon ami. On va parler de quoi au juste? On s'en va où là-dedans?
Ce qui arrive, c'est que je vais publier un article qui va sortir demain sur ma plateforme ericlantier.net parce qu'au début du mois, au début de février, il y a eu une sortie de la Coalition Avenir Québec disant que le gouvernement veut mettre sur pied une commission spéciale pour consulter les différents intervenants qui se penchent sur la question de la prostitution juvénile. Parce que 80% des adultes qui pratiquent la prostitution ont été recrutés avant l'âge de 18 ans. Donc, c'est vraiment problématique. Et ce qui arrive, c'est que Montréal et Québec sont des plaques tournantes de la prostitution juvénile. Donc, il y a plusieurs filles qui, par exemple, sont recrutées à Montréal et à Québec pour faire de la prostitution avant l'âge de 18 ans. Et même, on en recrute tellement qu'on en envoie de ces filles-là de Montréal et de Québec, puis des environs, dans les autres parties du Canada. Et donc, Montréal particulièrement est une plaque tournante de la prostitution juvénile. Et en créant cette commission parlementaire, on va chercher à trouver des moyens pour faire de la prévention puis réduire ce nombre, le nombre. Ben oui, c'est ça. Donc moi, je vois ça d'un bon œil parce que on va consulter des gens qui se sont penchés sur la question, autant des gens qui ont étudié sur le plan scientifique, des chercheurs, des universitaires, autant des gens de terrain. Et je pense qu'il peut juste sortir quelque chose de positif de cette commission parlementaire-là.
Sensibiliser les gens au problème, au départ, en parler déjà, c'est un bon pas dans la bonne direction. C'est le cas, ben... Il va avoir des bons résultats. Éric, sur ça, mon ami, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même à même poste, pour une autre belle chronique avec Éric Lantier.
Ça va être un plaisir.
Tout le plaisir est pour nous, nos auditeurs. Merci beaucoup, Éric. À la semaine prochaine, mon ami.
Au revoir.
Au revoir. Bye-bye.